Rose, bonsoir. Donc, on va. On est là ce soir donc, pour la deuxième conférence. Donc, vous avez vu que pour la deuxième année, on a repris le thème des femmes et des religions.
Depuis 1980, on s'était occupé des hommes.
Alors. Donc, on s'occupe, voilà, comme dit Marie-Christine, on s'occupe un peu des femmes. Donc, on avait traité, certains parmi vous étaient là, donc les femmes musulmanes et la discrimination entre religion et tradition, donc une première conférence. On va aborder donc aujourd'hui, à table ou au puits, le parfum, les larmes et l'eau vive quand des femmes rencontrent Jésus. Alors, s'il y en a qui ont les programmes, il faut toujours donner les informations importantes au début. Vous avez sur le programme « Femmes et Bible dans l'Antiquité » par Gabriella Aragion. Il y a marqué mars 2014, on connaît la date, ce serait le 14 mars.
Donc c'est un vendredi.
C'est un vendredi. Donc vous pouvez marquer ça sur vos agendas. Après, on aura « Femmes et religion, quel héritage, quel changement » le 22 mai. Et on aura sûrement une conférence après, parce que si vous regardez, on souhaitait entendre une personne de tendance catholique sur le Jura. Il semblerait qu'on l'ait trouvé. Donc c'est Elisabeth Dizière, qui était l'ancienne responsable du service formation du Jura, qui a de grandes chances de venir. Je ne vais pas, si vous regardez, donc Corinna Compé-Galland, professeure de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie de Paris. Le plus simple, on évite de dire de bêtises, c'est de laisser la personne se présenter elle-même. Donc je vous donne la parole. Donc le principe, vous connaissez, il y a à peu près une heure et quart de conférence. La pause, parce que vous aimez bien prendre le temps de discuter un petit peu entre vous. Puis après, à peu près 40 à 1 heure, donc de questions-réponses. On doit impérativement rendre la salle pour 11 heures. L'entrée est gratuite. La sortie, vous pouvez faire preuve de don. Les paniers sont là. C'est notre indépendance, c'est-à-dire que... Ben, effectivement, toutes les conférences ont un coût. On tient à être dans un lieu très laïque, donc on loue la salle ici. Puis la conférence, on demande aux gens, on les défraie également. Donc vous avez un panier à sortie. On est indépendant de par vos dons. Donc merci à vous tous. Et puis merci donc Corinna d'être venue. C'est vrai qu'avec le TGV, c'est plus facile de venir maintenant que de venir avant avec le train qui mettait 4 heures si vous arriviez à l'heure. Là ici, malgré les grèves, le train était à l'heure. Donc, bonne soirée à vous tous. Et Corinna, je vous laisse la parole.
Merci pour cette invitation. Alors, je viens de prendre ma retraite après 25 ans d'enseignement du Nouveau Testament à la faculté protestante de Paris. Paris est jumelé avec Montpellier, deux facultés qui constituent un institut protestant de théologie. Voilà, puis avant, j'ai eu un ministère spécialisé dans l'Église réformée de France d'animation biblique. Donc, j'ai toujours travaillé avec la Bible et je me réjouis de me pencher avec vous ce soir sur trois petits récits que j'ai choisis dans les évangiles. Deux versions assez différentes de la même histoire, de la femme au parfum. Une version où, dans l'évangile de Marc, à Béthanie, une femme verse du parfum sur la tête de Jésus. Et puis, dans l'évangile de Luc, où on trouve le même geste, avec une femme présentée différemment, et qui inonde les pieds de Jésus de son parfum et de ses larmes. Et puis, si nous avons encore le temps, je vous emmènerai au puits pour rencontrer une femme samaritaine à qui Jésus demande à boire, transgressant les frontières par cette demande. Voilà, alors vous avez les textes sous les yeux, je vais lire le premier, je pense que c'est bien qu'on l'entende, et je passerai un premier temps sur ce récit. La Pâque est la fête des pains sans levain, donc c'est dans l'évangile de Marc, c'est le côté Marc et Luc du papier que vous avez sous les yeux. La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Ils disaient en effet, pas en pleine fête, de peur qu'il y ait des troubles dans le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et pendant qu'il était à table, une femme vint, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur et très coûteux. Elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation : « À quoi bon perdre ce parfum ainsi ? On aurait bien pu vendre ce parfum-là plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit : « Laissez-la, pourquoi la tracasser ? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla chez les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment il le livrerait au bon moment. Alors j'ai laissé au récit son cadre, son encadrement avec lequel il est en relation et en contraste. Vous l'avez entendu ? Le temps est indiqué, c'est la Pâque et la fête des pains sans levain dans 2 jours. Cette fête fait mémoire du passé, de la libération d'Égypte, du repas de l'Exode, un repas de départ pris debout. Mais cette fête invoque aussi le futur, elle marque l'attente d'un grand festin messianique, une fois les temps accomplis. Ici, le temps se calcule. Les chefs religieux de Jérusalem, grands prêtres et scribes, les autorités du temple et des Écritures, cherchent comment arrêter Jésus. Et le texte précise par ruse pour le tuer. Ils veulent éviter ainsi un tumulte parmi le peuple des pèlerins qui sont montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais il manque aux puissants, qui ont même déjà défini la modalité de l'arrestation, la ruse, il leur manque le pouvoir concret de précipiter cette mort programmée. Comment ? Le comment revient dans le texte. La fête est obstacle à cause de la liesse commune. Et la réjouissance des chefs va se faire très particulière. Elle ne leur viendra pas tellement de la fête, mais de pouvoir prendre la Pâque de vitesse en arrêtant Jésus avant. Jésus, d'ailleurs, est déjà sorti du temple. On nous l'a présenté juste avant, assis sur la colline, en face, au mont des Oliviers. Et il a puisé dans les Écritures, dans la Bible juive, parmi les textes apocalyptiques annonçant la fin des temps, de quoi mettre en image la ruine de ce monde que son regard perçoit et qu'il annonce. Alors, cette ruse dont ont besoin les chefs, ceux qui veulent supprimer Jésus, va emprunter le visage de l'un des siens, Judas. Judas, on le nomme au verset 10, le leur livrera contre de l'argent. Et à son tour, ce disciple transfuge devra chercher comment, à l'occasion favorable, au bon moment, livrer Jésus. Le récit du don de parfum de la femme s'inscrit donc entre ces deux comment. Comment par ruse arrêter Jésus ? Comment le livrer au bon moment. L'offrande de parfum de la femme, je le dirai tout de suite, pose une autre question. Pourquoi ? Pourquoi cette perte ? Se demande-t-on. Et c'est ce pourquoi qui fait changer Judas de camp. On voit ainsi qu'un cadre serré et construit à ce geste de complot, alors que le geste lui-même est un geste libre et généreux d'hommage. D'ailleurs, le verbe « donner » est repris 3 fois à la fin. La promesse du don d'argent à Judas est insérée entre 2 affirmations du don livraison, livrer Jésus, transmission, trahison. Mais dans la scène intérieure, celle du don du parfum, on calcule également. Et le verbe donner y résonne aussi. On calcule, mais là, pas sur le plan du réalisme meurtrier, mais sur le plan de l'imaginaire. Dans l'imparfait du regret, où le don aurait pu être utile, rentable, dans l'échange, certes aussi, mais comme une œuvre de piété, ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers, c'est-à-dire le salaire de 300 journées de travail, et donné aux pauvres. Si le procès qui est fait au geste de la femme, à ce geste de pure perte, l'est au nom de l'argent à donner aux pauvres, on peut tout de suite se demander si avec Jésus, par Judas, ce n'est pas le pauvre qui sera vendu. Mais à cette lecture critique des convives, Jésus va opposer sa propre interprétation. Et il va recevoir le parfum comme une onction funéraire. Ainsi, on peut d'emblée le dire, dans la scène du repas, au cœur du texte, comme dans la scène du complot qui l'encadre, il est question de la mort de Jésus. Sur le mode de la haine et du calcul, à l'extérieur, sur le mode de l'amour et de la reconnaissance au-dedans. Alors on va passer maintenant dans la scène elle-même, à l'intérieur du récit, entre les versets 3 et 9. Et dans le premier temps, je soulignerai une impertinence. Jésus est à table. La table définit toujours un cercle de convives, elle distribue des places. C'est une façon de rejouer ou de contester l'ordre du monde politique ou religieux de la cité. Il y a des règles, comme un langage, on pourrait dire, comme une syntaxe des comportements autour d'une table. Jésus est à table et c'est là qu'il va être enseveli, par le geste d'une inconnue. Évidemment, pas au bon endroit et pas au bon moment, de son vivant. Ou peut-être que si précisément, au bon moment, puisque au tombeau, quand les femmes viendront avec les aromates pour le dernier geste, dommage, il n'y aura plus de corps. Le matin de Pâques, une fois le sabbat passé, elles trouveront la tombe ouverte et vide. Donc, ça ne sera pas le moment de l'ensevelir. C'est ici, à table, que c'est au bon moment, paradoxalement. Donc, les repères du temps sont bousculés. L'incident, ici, se produit en léger décalage, dans la marge, hors des repères. On est juste avant le repas de la Pâque. Ça sera d'ailleurs le dernier repas de Jésus avec ses disciples où il partagera le pain et le vin en don de son corps et de son sang. Ici, on est juste en dehors de Jérusalem. Jérusalem où il y a déjà une salle toute prête qui attend Jésus et ses disciples pour le repas pascal. Ici, on est à Béthanie, ce qui veut dire littéralement la maison du pauvre. Et on est chez Simon, pas Simon-Pierre, le roc, mais on nous le décrit ici, Simon le lépreux. À la table d'un autre guéri, sans doute, mais dont le passé de malheur entache encore le nom. On peut imaginer qu'au corps lépreux va s'opposer ici le corps parfumé de Jésus. Car c'est là, dans cet à côté, à la marge, qu'un geste imprévu, comme en incidence, vient briser le cours du temps, couper les habitudes, les chemins de la tradition. Et l'incongru du geste fait violence en perturbant les repères. L'acteur qui perturbe est une femme. Elle n'a pas de nom. Elle arrive du dehors et elle va droit au but. Elle verse sur la tête de Jésus allongé à table un parfum de nard. Elle a mis tout le prix. Le parfum est précieux. Son geste est sans réserve. Le vase est cassé. L'onguent est coulé. Ce qu'elle avait, elle l'a fait, dit Jésus, littéralement, dans un raccourci de langage. Et cette expression en raccourci contraste avec la surabondance du don qui est soulignée dans le récit par l'excès de la description d'un parfum pur, très coûteux. La femme n'a pas dit un mot. Et pas plus qu'elle, le récit n'explicite son intention. On pourrait dire qu'un acte se pose ici, en plein, dans un vide du récit, dans un blanc du récit. Est-ce que ce qui est signifié d'abord, c'est la surabondance ? Précisément, ce qui ne se mesure pas, ne se retient pas, ne se récupère pas, comme un parfum, mais déborde, échappe, s'écoule, se perd. En tout cas, l'intensité de l'offrande va de pair avec la sobriété de la parole. Dans l'histoire qui est racontée, et dans le texte aussi qui raconte cette histoire. On pourrait presque dire que, comme la femme, le récit est à la fois exposé et retenu, livré et pudique, sensible, sensuel, métaphorique. Le geste pose problème, il attend, il appelle un sens qui lui vienne d'ailleurs. Il demande un accueil, il se livre aux interprétations et ça va être un conflit d'interprétations. La femme, en effet, n'a pas seulement brisé l'albâtre du vase, mais les convenances du repas. Parmi les convives, il y a des remous. Ce sont les versets 4 et 5 qui nous le disent. On s'offusque entre soi dans le refus de ce geste inattendu qui dérange, et on va même à fulminer contre elle, on la rejette. C'est l'indignation et la hargne qui sont indiquées. Ce pourquoi de la perte, qui est une question rhétorique dans la bouche des convives excédés, pour rien. En vérité, c'est peut-être la question même du texte. Pourquoi cette perte ? Ce pourquoi se résorbe d'abord dans l'imparfait du regret. On s'agite au conditionnel passé. On pouvait vendre le parfum, on aurait pu en donner la somme aux pauvres. La générosité, d'accord, mais au moins qu'elle rapporte, qu'elle soit utile, qu'elle serve. Et cette somme évaluée de 300 deniers, 300 journées de travail, renforce encore la folie de ce don. On pourrait dire qu'en versant d'un coup presque le salaire qui permet de vivre jusqu'à la Pâque suivante, la femme a en quelque sorte accompli la Pâque. Un geste est donc posé là dans le monde qui enfreint les règles du monde. Il fait violence, il échappe au repère. En effet, le parfum ici n'est pas celui de l'hospitalité, à l'entrée dans la maison où un esclave aurait pu laver les pieds de l'invité. Mais il est versé par une femme sur la tête de Jésus au beau milieu du repas. L'offrande n'est pas non plus celle d'un sacrifice de bonne odeur, de parfum, au temple. Ici, l'offrande est déplacée sur le corps de Jésus. où l'acte de la femme peut paraître aussi bien prophétique que sacerdotal. Ce geste peut évoquer encore la bénédiction divine que chante, par exemple, le psaume 23 « Au Seigneur, mon berger ». Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires, tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante, chante le psaume. C'est donc ici, en plein milieu du repas, opéré par une femme, un geste déplacé, inclassable, absurde et fragile. Mais à l'opposé de ceux qui calculent et contestent, Jésus, lui, reçoit la perte. Non pas la valeur de l'objet, mais le geste, je dirais. Non pas la valeur économique, mais plutôt la valeur symbolique. Et c'est précisément en tant qu'il est perdu que le parfum peut parler autrement. La perte même déplace la signifiance de l'objet du parfum à la relation que permet le don de ce parfum. Jésus reçoit la perte pour lui, en lui. Le parfum n'est donc pas un objet répandu en pure perte, on pourrait presque dire c'est une perte pure, qui le désigne lui dans sa valeur éminente. Et il se laisse toucher, atteindre en sa personne. Il est cette personne pour qui une inconnue a pu mettre en acte tout ce qu'elle avait. Comme le parfum s'est écoulé, le sens est perdu si celui à qui l'offrande est destinée ne risque une attestation, ne s'engage dans un travail d'interprétation. Et l'interprétation de Jésus ici est double. Elle porte sur le don, elle porte aussi sur lui-même qui accueille ce don. Jésus se met à parler de ce qui lui advient. Et il traduit ce don étrange, et comme toute traduction, cela suppose une distance, un déplacement. Il reporte le parfum de sa tête à son corps et comprend l'acte comme une onction funéraire en vue de sa sépulture. On peut voir alors dans son corps allongé à table, de cette façon qu'il est décrit au début du récit, une image de son corps bientôt couché dans la tombe. Reçu ainsi, le don du parfum offre à Jésus un langage pour interpréter ce qui lui arrive. Dans la surabondance de l'amour et dans ce blanc de parole, par la grâce de cette attention inattendue, Jésus trouve l'espace et le courage pour apprivoiser et annoncer sa propre mort. C'est ainsi qu'il commence à entrer dans sa Pâque, dans sa passion, qu'il affronte sa disparition toute proche. L'extrême disponibilité du don le touche précisément au lieu où il va se donner lui-même, se perdre lui-même, c'est-à-dire au lieu de sa mortalité, au lieu de sa singularité la plus vive et de sa solitude, là où il n'y a justement plus de comparaison possible avec autrui. C'est pourquoi cette plus belle œuvre d'amour, la solidarité avec les pauvres, n'est pas révolue par ce geste et par son accueil du geste. Elle est juste suspendue un instant, car on pourrait dire Jésus, comme tout homme, est, devant l'heure de sa mort, lui, le pauvre. À ce moment qui lui est donné, il trouve un appui indéfectible dans la fragilité même du geste qui traverse les repères, qui les bouscule et qui ne se soutient d'aucune parole. La scène touche au plus concret, au plus corporel. Mais le don, à l'image du parfum qui se répand, s'amplifie de signification symbolique. C'est une fête d'abord pour les sens, pour l'odorat et le toucher, que cette profusion d'un parfum de prix. Mais ça devient le lieu aussi d'une fête pour la signifiance. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les deux adjectifs qui qualifient le parfum gagnent en résonance. Ils dépassent l'objet lui-même. Ils déportent leur effet de sens sur la relation que l'objet autorise. Ils font de ce geste un geste métaphorique. Le premier adjectif qui qualifie le parfum emprunte à la racine même de ce que l'Évangile traduit par le mot « foi ». C'est-à-dire que le parfum est fiable, il est sans mélange, il est pur, il n'est pas truqué, il n'est pas frelaté. On peut lui faire confiance. Le parfum est pur, mais c'est surtout l'offrande qui est authentique. Alors même que cette générosité semblait perdue. C'est une perte pure, une perte qui suscite la confiance, qui peut soutenir la foi. Et le second adjectif qui qualifie la dépense comme somptueuse, un parfum de prix, signifie plus littéralement à visée multiple. Ce qui veut dire que, ou ce qui peut suggérer que le geste de la femme n'entre pas dans une interprétation univoque, mais est à visée multiple. C'est-à-dire qu'il est lisible sur plusieurs registres. On peut y voir un geste d'amour, un geste d'hommage, une onction royale, une reconnaissance du Messie. Tous ces sens sont possibles. La femme n'a pas dit son intention. Jésus, lui, reçoit ce don au plus profond de lui-même, dans sa pauvreté essentielle d'homme qui marche vers la mort. Dans un dernier temps sur ce récit, j'aimerais souligner cette perte heureuse. Déjà quand Jésus accorde à sa personne le geste osé de la femme et qu'il en fait le bon moment pour sa sépulture, mais plus encore quand l'Évangile profite de la résonance de ce petit épisode avec l'histoire entière de Jésus que l'Évangile raconte, la dimension métaphorique des figures s'accentue. On peut dire que le vase est brisé comme le pain au repas qui suit, au repas de la Pâque, va être rompu, puis le corps brisé aussi à la mort de Jésus. Le parfum se répand comme le vin, puis le sang seront versés. C'est d'ailleurs assez extraordinaire que la tradition de Marc, que l'évangile de Matthieu a suivi, ne reprenne pas au dernier repas de Jésus l'ordre de faire ceci en mémoire de moi pour le partage du pain et du vin pour le repas eucharistique. Mais c'est justement le geste de la femme de Béthanie, ici dans notre scène, qui sera confié à la mémoire et à son travail partout dans le monde. Partout où l'Évangile sera proclamé, on fera mémoire aussi du geste de cette femme. Les deux récits, ces deux repas, celui de Béthanie et puis le dernier repas de Jésus avec ses disciples, sont donc liés métaphoriquement. La perte du parfum annonce la perte du corps de Jésus. Alors le corps de Jésus dans l'Évangile va être perdu deux fois, dans la mort d'abord, à la croix, mais son corps sera perdu une seconde fois, bien que tout autrement, au matin de Pâques, quand la tombe ouverte se révélera vide, sans corps. Alors on peut dire que dans la profondeur de ce simple récit, le geste de la femme de Béthanie s'offre à son insu, malgré elle, pour interpréter non seulement la mort, mais encore la résurrection de Jésus. En effet, le parfum qui se diffuse est bien une métaphore aussi de la diffusion du message de Pâques. Au tombeau, la tombe est ouverte, vide, le corps sera perdu, mais fera place à une bonne nouvelle, à la nouvelle heureuse à répercuter. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu'il les précède en Galilée, sur les chemins d'humanité. Ici, à table, Jésus anticipe de son vivant l'accueil de cet ultime hommage que les femmes à la tombe ne pourront lui rendre, puisqu'il n'y aura pas de corps. C'est en tant qu'il est vivant qu'il se laisse oindre. Alors il me semble qu'il n'y a qu'une métaphore, mais une métaphore incarnée ici dans cette femme, en quelque sorte, dans son geste, une métaphore en acte qui peut signifier cet impossible, l'ensevelissement à table d'un vivant. C'est le philosophe Paul Ricoeur qui nous a appris que la métaphore peut se déployer non seulement au niveau d'un mot, mais au niveau d'une phrase et même d'un récit entier, comme une parabole. Elle est, dit-il, une prédication bizarre, l'attribution à des sujets logiques de prédicats qui sont incompossibles avec eux, pas possibles avec eux. C'est une innovation de langage, une métaphore, qui détruit l'usage sémantique usuel des mots pour faire surgir de la nouveauté, de l'inédit dans le langage, pour faire surgir une pertinence sémantique nouvelle. Il y a métaphore dans un texte quand il y a une tension, quand sous la nouvelle pertinence d'une figure se laisse entendre la résistance des mots dans leur emploi habituel. Chaque métaphore requiert une imagination créatrice. Et c'est ainsi que c'est une métaphore vive. Elle peut être envisagée comme un poème en miniature. Il me semble qu'on pourrait dire que l'impertinence de la femme, l'innovation sémantique du geste, de son geste, fait de la femme en quelque sorte une métaphore vivante. Le geste singulier de la femme sonne si juste pour Jésus qu'il envoie la portée universelle. Il annonce que mémoire sera faite partout où l'évangile sera proclamé. La métaphore vive qu'est ce récit du vase brisé et du parfum d'onction répandu, c'est aussi comme une métonymie, une image réduite de l'évangile tout entier, comme l'une de ces parties, l'un de ces fragments, l'un de ces petits récits, mais qui représente le tout. C'est comme si l'évangile de Marc, qui s'écrit, trouvait dans ce récit une image de lui-même en train de s'écrire, de se raconter. Il est lui-même, comme évangile, le récit d'une rupture et d'une perte. La rupture et la perte de la vie de Jésus à la croix. Mais l'Évangile, en la racontant, en fait une bonne nouvelle. Il reconnaît et proclame un sens à la perte, comme Jésus a interprété, donné du sens à la perte de parfum que la femme lui a offerte. C'est la rupture même qui devient en quelque sorte un repère. Et à l'image de l'acte de cet inconnu, et de l'interprétation qu'en retour Jésus offre à tellement d'excès, à tellement d'égards, on peut dire que l'Évangile est le témoignage d'un sens reconnu à la perte. La bonne nouvelle, la nouvelle heureuse du corps de Jésus à jamais perdu, mais qui du coup appelle hors du tombeau le corps vivant de ses témoins. Et il me semble que l'écriture, du coup, de l'Évangile, y trouve son style. On pourrait dire que l'écriture de l'Évangile ressemble en quelque sorte à la figure de cette femme. Une écriture poétique qui, comme la femme, vient de l'extérieur, qui brise le cercle des convenances, des habitudes, qui cueille hors saison le bon moment, qui met en acte ce dont elle dispose en surabondance et qui est en appel, en attente d'interprétation. Voilà pour ce premier récit avec ce geste de don de parfum de la femme de Béthanie. Excusez-moi, je fais 2 minutes. Alors ce même geste, ou même est différent, on le trouve aussi dans l'évangile de Luc, mais pas du tout au début du récit de la Passion, mais bien avant, dans le ministère de Jésus en Galilée. C'est au chapitre 7, et je vous lis aussi ce récit, pour qu'on l'ait un peu en tête quand je le commente. Un pharisien l'invita, donc Jésus, à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ici à nouveau, on a une étrangère à l'espace de l'invitation, l'invitation à table, qui crée un incident. Et le texte enclave cette venue et l'expansion du don de la femme dans le cadre tracé de l'hospitalité du pharisien. On nous répète qu'il avait invité Jésus au verset 36 et au verset 39. On pourrait d'ailleurs souligner que les deux verbes qui servent à dire cette invitation supportent d'autres éléments de compréhension possibles, d'autres virtualités de sens. Le premier verbe, le pharisien l'invita à manger, est un verbe qui est utilisé pour une demande, il lui demande de venir manger, mais une demande qui est souvent une interrogation. Et le deuxième verbe, où il est dit que Jésus est invité à manger, au verset 39, c'est un verbe qu'on peut entendre aussi comme le verbe de l'appel, de la vocation. Il l'avait appelé à manger. Alors c'est intéressant parce qu'on peut tout de suite se demander si cette histoire du repas ne le cède pas à l'épreuve d'un interrogatoire et si, à travers ce récit aussi, ne se laisse pas entendre un appel, une interrogation, une vocation. Dès l'arrivée de la femme, en effet, le repas semble suspendu. On attendrait l'odeur des mets, mais s'y substitue l'odeur du parfum versé. L'espace et le temps sont envahis. On nous raconte ce qui commence à s'écouler non seulement du vase, mais du corps, les larmes et les baisers, les cheveux, précédant ce qui s'écoule du vase, le parfum. Mais pour le pharisien, celui qui avait invité Jésus, tout se crispe en un point d'interrogation intérieure. La réception, on pourrait dire, devient une déception pour lui. L'homme qui désirait inviter chez lui un prophète est choqué. Sa déconvenue rabat sa générosité sur une question fermée qui enferme la femme dans la dépréciation. En un mot, elle est pécheresse. C'est répété au verset 39, après le verset 37. Mais inviter un prophète chez soi, est-ce que ce n'est pas courir le risque que le style de son repas soit chahuté, que les rôles se mettent à bouger ? Jésus précédemment, juste avant dans l'évangile de Luc, a ressuscité le fils de la veuve de Naïm et on le reconnaît comme un prophète. Ici, ce n'est pas tellement Jésus, c'est la femme qui du dehors vient perturber le déroulement de la scène qui était bien campée par la narration. Elle apporte le parfum dans un vase d'albâtre. J'aimerais dire qu'elle porte surtout sa vie dans un vase de chair, une vie qui a sans doute beaucoup saigné. Et cette vie trouve ici le chemin des larmes. L'accès à soi prend la forme d'un excès de dons. Le corps s'exprime, mais ne trouve pas tout seul le chemin du sens. Ce déplacement qu'opère la femme produit un choc dans la scène du repas, sidère. Elle engage un corps à corps avec l'invité qui est étendu à table, de ses pieds à lui, à sa tête à elle. Dans une posture à la fois humble, elle se tient par derrière, à ses pieds, elle pleure. Et aussi une posture exposée, elle commence à laisser ruisseler sur les pieds de Jésus, ses larmes, son parfum, ses cheveux défaits, ses baisers. Cela n'en finit pas. On peut presque dire que tout s'écoule, tout coule dans un temps qui lui-même s'écoule. Elle pleure, inonde, comme une pluie, c'est le verbe qui exprime la pluie qui est utilisé. Et le dernier verbe même traduit la qualité de son don, elle procède à une onction. Le récit, comme à Béthanie tout à l'heure, n'a explicité aucune intention à un pareil geste. On nous dit seulement, au verset 37, elle avait appris, c'est traduit comme ça, en grec c'est « elle avait reconnu qu'il était à table ». Et j'aimerais garder ce « reconnaître », même s'il est difficile à comprendre. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance qui joue un rôle inexpliqué, pas développé par la narration, mais suffisant, qui présuppose quelque chose qui s'est passé avant, qui est capable de porter cette démarche incroyable. Cela est en tout cas assez fort pour motiver la transgression que pécheresse, elle pénètre dans la maison d'un pharisien impur, qu'elle y déverse sans mesure ce que contient son flacon et au fond toute sa vie. Pas un mot ici non plus, ni d'elle ni de lui, dans ce jeu corporel. La limite sera rappelée par l'offense du pharisien d'abord, qui est interloquée par ce toucher. Et puis, cette limite s'énoncera par Jésus, avec l'accent de la parole fondatrice, lorsque lui s'avérera être l'hôte véritable quand il accompagnera la femme au seuil de la maison en l'envoyant en paix, en lui disant qu'elle est pardonnée et en lui ouvrant un avenir de paix. Le geste, je l'ai dit, avec ce toucher qui confond en quelque sorte les distinctions fondatrices de l'univers et de la vie, ce geste va obliger Jésus à redistribuer des places. Et pour cela, il faut du jeu. Il va raconter une parabole. Le fait de raconter en parabole opère un décalage. La thématique est différente, tout en gardant des points de connexion. Ça donne un point de vue en surplomb qui permet de situer l'événement perturbateur du parfum répandu dans un scénario plus large, dont le don de parfum apparaît alors comme un acte second ou même troisième. Mais avant de raconter cette parabole, une histoire de dette et un effacement d'une double dette, Jésus va resserrer le lien de parole. Il s'adresse aux pharisiens, aux justes déboussolés par le geste de la femme. Et il commence par le nommer Simon. Il parle à l'homme, et non aux pharisiens, à l'homme qui a un nom propre. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répond Simon. D'avoir été nommé, Simon semble reconnaître son maître. Ou alors il cache encore sa fragilité sous la relation professionnelle du maître et du disciple, une relation qu'il connaît bien comme pharisien. Il se protégerait ainsi. En pédagogue qui ne veut pas blesser, Jésus a la sagesse alors de transposer le monde en parabole. Il se place en tiers et il introduit une communication indirecte entre la femme et le pharisien. Par le détour d'une autre histoire, il construit en parallèle les deux parcours qui viennent de s'affronter, celui de la pécheresse et celui du pharisien. Il les convoque tous les deux et les compose sur la toile de fond d'une même aventure, on pourrait dire l'aventure faite de contrastes, qui est l'aventure de la vie humaine. Être en dette, être pécheur, et aimer, déborder d'amour, est-ce que ce n'est pas finalement la condition de toute vie humaine? Une vie marquée par la dette, par le péché, et une vie où l'amour abonde. une vie humaine où, selon de multiples modes, finitude et infini se conjuguent. Et peut-être que justement les larmes jaillissent à ce point de jonction. Mais je reviens à la parabole. Jésus raconte donc une histoire de dette, l'une énorme, l'autre petite, envers le même créancier. Les deux endettés sont acculés quand, miracle, le créancier, nous dit le texte, fait grâce. Alors Jésus questionne Simon, qui répond avec la droiture d'un homme qui s'est jugé. Mais la question est impertinente, puisqu'elle fait pointer l'amour dans une affaire d'argent. Lequel des deux, demande Jésus, l'aimera le plus? On peut dire que la question de l'amour, lequel l'aimera le plus des deux débiteurs, la question de l'amour opère le transfert d'une scène à l'autre, fait le lien. La question de l'amour transporte la femme aimante sur la scène imaginaire de la parabole, ou plutôt elle fait descendre le monde de la parabole à la table de Simon le pharisien. Déjà le verbe pour le créancier, il a fait grâce, est un verbe inadéquat. Un verbe qui déborde le cadre économique et qui signifie ailleurs, qui tend à signifier ailleurs. On peut d'ailleurs relever l'importance de ce verbe parce que juste avant, on le retrouve dans l'évangile de Luc et c'est les deux seules occurrences de ce verbe. On évoque les mots mêmes d'Ésaïe pour dire quand Jésus, le Messie, est venu, les aveugles retrouvent la vue, il fit grâce à de nombreux aveugles de voir. Souvent, ce n'est pas traduit comme ça. Jésus a fait grâce à de nombreux aveugles de voir. Avant donc de poser les gestes de la femme et du pharisien, Jésus a construit à la séquence du repas et à ce fragment d'existence qui vient s'y livrer une autre scène antécédente. La parabole a pour richesse de déployer une intrigue plus large. Jésus a posé le lieu d'un faire grâce plus fondamental que toute histoire. Une grâce prévenante qui efface la dette initiale. Et toute vie humaine peut se lire comme l'histoire de sa réception, consciente ou non. Jésus regarde alors l'un et l'autre du lieu de ce savoir premier. Jésus se tourne vers la femme et fait tourner vers elle le regard de Simon. Il les fait se rencontrer après la rencontre dans la parabole, dans la transposition de la parabole, il les fait se rencontrer par le regard. « Regarde cette femme, dit-il, je suis entrée dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau sur les pieds. Elle, de ses larmes, a inondé mes pieds et de ses cheveux les a essuyés. D'huile, tu aurais pu oindre ma tête. » Tu aurais pu donc déplacer le geste d'hospitalité à l'égard d'un voyageur couvert de poussière vers une véritable onction. Le contraste est durci et critique. Toi, rien. Elle, tout. Alors, qui est l'hôte véritable? Qui est capable de reconnaître Jésus? Mais la critique n'est pas une condamnation seulement. Elle se veut une sollicitation. Si c'est la femme qui a été hospitalière, et pas l'homme qui a invité, qui a été hospitalière en baignant les pieds, maintenant, c'est Jésus, du lieu de cette onction, qui raconte ce qu'il voit. Il n'énonce pas une loi, il relie ces deux existences singulières et il les invite à se reconnaître sous le jour d'une aube qui les précède. Il accomplit de cette façon une lecture prophétique. En effet, il n'y a pas d'ordre qui serait établi une fois pour toutes et pour tous les humains. Amour et pardon sont utilisés dans ce récit avec souplesse, mais tous les deux agrippés, arrimés à la même origine, la grâce. Ils peuvent se nouer, se conjuguer. Chacun peut devenir signe et conséquence de l'autre. Chacun peut donner à l'autre sa vraie mesure. Par l'amour, le pardon. Par le pardon, l'amour. Aucun présupposé théologique n'impose un sens unique. Et d'ailleurs, Jésus ici s'adresse à chaque être en fonction de là où il en est de son chemin d'existence. Parlant de la femme pécheresse à Simon, pour élargir la vision de son jugement, il affirme « Ses péchés lui ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. » L'amour est donc pour elle premier. Ce point de vue valorise l'être capable d'aimer en dépit du péché et invite à adopter un regard qui perçoit l'amour comme premier. C'est cet amour que la femme a su exprimer qui lui vaut le pardon. Mais quand Jésus s'adresse au pharisien lui-même, qui raisonne à partir de la catégorie du péché, cette femme est pécheresse, Jésus montre à Simon combien sa personne est étriquée, on pourrait dire, dans son habit, dans sa tenue de juste. Et alors il l'invite à oser se reconnaître lui-même pécheur, c'est-à-dire à oser désirer plus de pardon. Et à partir de là, à savoir mieux aimer. Celui à qui peu est pardonné, aime peu, lui dit-il. Et enfin, quand Jésus s'adresse à la femme elle-même, il déclare quelque chose comme « Tes péchés sont déjà pardonnés ». À partir de ce pardon, va vivre en paix. On pourrait dire parce qu'elle a aimé, il la libère pour aimer en paix. Quand Jésus, grâce à sa parabole, a réinterprété cette séquence de vie qui est venue se déverser à ses pieds par les larmes et par le parfum de la femme, Jésus a replacé ce fragment de vie dans un scénario plus large. Il a dit la grâce qui précède le pardon et l'amour, qui précède ce qui est venu se jouer à ses pieds. Mais s'il a parlé de la grâce comme de l'effacement d'une dette, est-ce que le terme de dette n'appelle pas encore une étape antérieure, ne suppose pas une étape antérieure qui n'est pas racontée dans ce récit? Cette étape qui met tout homme en dette, et je penserai ici au don, à un don premier. S'il y a dette, c'est qu'il y a eu un don inaugural, un don premier, sans restitution possible. Est-ce que ce n'est pas dessiner la place de l'origine, du don de la vie comme origine gratuite, qui met tout homme en dette dans la relation à son Créateur? Si la vie humaine est en dette, c'est qu'elle ne peut être qu'inadéquate par rapport à cette puissance inaugurale, à cette origine première. Et on pourrait penser le don premier simplement comme la grâce qui prévient toute vie humaine, comme un oui primordial de Dieu à la vie, ou comme la jubilation d'un amour antécédent à toute histoire humaine. Du coup, si on intègre à la vision de la longue aventure de la vie qui commence à la création, cet excès d'amour de la femme, son geste peut se lire comme un reflet de cette grâce première, de cette grâce généreuse. Dans les larmes et le blanc de signification que le récit laisse à ces larmes, on peut entendre ou on peut voir poindre peut-être comme une lueur d'origine. C'est cela qui permet en même temps la fin, c'est-à-dire cet avenir auquel Jésus ouvre le chemin pour la femme. « Va en paix », lui dit-il. Il reste l'émouvante figure des larmes, et j'aimerais terminer ce récit là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est livré au pied de Jésus, de non-dit, mais qui a trouvé pour chemin l'expressivité des larmes. On peut dire que c'est une figure passionnelle d'un affect, un langage du corps, quand justement la force d'un affect suspend peut-être tout savoir chez la personne qui pleure elle-même, en tout cas qui rend les mots inadéquats. Et je trouve magnifique ici que le récit les respecte infiniment au point de ne même pas chercher à les interpréter. Il les laisse couler sans les résorber dans une explication. Peut-être qu'elles sont comme en blanc dans le récit pour que s'y reflète la densité de sa signification. Non déterminée, elle se prête en quelque sorte à la relecture de l'ensemble. Si, dans l'interprétation que Jésus fait de ce geste de la femme, c'est la vie humaine tout entière qui est évoquée, qui trouve sa qualité d'origine dans une grâce d'être, les larmes peuvent refléter cette joie pure d'un don de la vie à l'origine. Mais elles peuvent aussi couler comme des larmes grosses sous un fardeau écrasant, celui de la dette ou du péché. Elles peuvent signifier aussi, comme on fond en larmes, que l'amour fait craquer la carapace, peut libérer une détente. Et enfin, elles peuvent anticiper corporellement, à la surface d'une joue et à l'insu même de la personne, la reconnaissance. Cette réception du pardon et de la paix, avant même qu'il ne soit déclaré, comme Jésus le fait à la fin du texte. Je verrai tout cela possible à lire dans cette figure des larmes, que le texte a la pudeur de ne pas interpréter. Des larmes pures de joie, des larmes lourdes de peine, des larmes peut-être brûlantes de honte, des larmes aussi émues de reconnaissance. Tout cela, à partir de l'interprétation que Jésus propose du geste, aura été possible pour cette femme. Je dirais, pour terminer, que beaucoup plus sobrement, pour pleurer, il faut s'aimer au moins un peu. Et pour s'aimer, il faut avoir été aimé. Peut-être qu'ici, le geste prophétique de Jésus opère une greffe de l'événement d'un amour, comme celui de la femme, qui était peut-être un geste tout à fait ambigu. Le texte a dit qu'elle était pécheresse. Elle portait son péché dans la ville, on l'a vu comme une prostituée à travers cette expression pudique. Elle porte son passé, elle porte sa vie, comme la proposition relative la définit, une femme qui était pécheresse dans la ville, nous dit tout de suite le récit. Mais cet acte d'amour qu'elle a joué, qui n'est même pas défini dans le texte, est greffé par l'interprétation de Jésus sur l'antériorité fondamentale de l'amour de Dieu qui advient comme possible quand Jésus l'interprète comme l'effacement d'une dette, comme une grâce qui permet alors d'aimer de façon nouvelle, d'aimer mieux. Voilà pour ce deuxième récit de ce geste de la femme. Alors, j'avais annoncé j'emprunte à l'évangile de Jean. Et alors, c'est un tout autre récit. C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il est un peu plus long dans le texte et puis je le lirai un peu plus vite. Je le traverserai un peu plus rapidement. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean le Baptiste, à vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples. Il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus apparaît donc au début du récit, éreinté par la marche, écrasé par le soleil à l'aplomb. C'est plein midi. Il est assis, le texte nous dit même adossé à même le puits, ou plutôt précise, la source. Son corps semble dire tout entier « Je tombe là de fatigue. » Et on pourrait imaginer les paroles intérieures. « Je suis épuisé. Tu es venu. Tu puises. Pourquoi d'ailleurs par cette chaleur en plein midi ? J'ai soif. Mais toi, de quoi as-tu soif ? Alors à voix haute, « Donne-moi à boire, » dit-il. J'ai envie de dire un peu comme un autre petit prince dans le désert aurait dit « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Jésus, nous dit le texte, a dû traverser la Samarie pour rejoindre, à partir de la Judée, la Galilée. Il lui fallait traverser. Est-ce le plus court chemin ? Ou est-ce qu'il y a une nécessité plus profonde qui le conduit ici ? Dans les textes bibliques, ce « il faut » n'est jamais anodin. Est-ce qu'il a le sentiment d'une mission en terre voisine, cette terre mal aimée des Juifs ? Il est seul, ses disciples sont partis à la ville chercher des vivres. Mais ce qui va le nourrir, il le leur dira quand ils lui ramèneront du pain, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ce qui va le nourrir ici, ça va être paradoxalement de désaltérer cette femme. Plus encore, on pourrait dire, de faire jaillir l'eau vive, comment ? En demandant à boire. Il donne par une demande. Il sait sans doute qu'il est souvent plus facile de donner que de recevoir, car accepter un don inattendu, un don qui transgresse les usages, réclame une liberté intérieure. Ici, Jésus rompt le silence lourd de chaleur. Il entame la conversation par la demande la plus simple qui soit, la plus directe. On pourrait dire qu'elle coule de source sur la margelle d'un puits. « Donne-moi à boire. » C'est comme s'il fallait que passe d'abord la fraîcheur de ce souffle, de cette demande, qu'il creuse dans la femme cette ouverture, une générosité, où elle ose ensuite accueillir, sans peur. Il la rencontre par sa soif, à lui. Alors la traversée est devenue transgression, car Jésus a franchi la barrière qui, dans sa culture, sépare un homme d'une femme, un juif d'une samaritaine. Ce qu'il a révélé fonde sa liberté. Il le dira à la fin de l'échange, en sa personne, l'heure vient, et elle est là, c'est maintenant, l'heure de Dieu qui cherche de vrais adorateurs. Jésus, pour ce Dieu-là, sonde la vérité, non pas dans les temples, non pas dans les hauts lieux, ni sur le mont Garizim, au lieu des Samaritains, ni à Jérusalem, pour les Juifs, mais au plus profond de l'homme, là où soif et souffle, on pourrait dire, tout à la fois s'apaise et s'avive. Là où, libéré des attaches habituelles, des rites, des préjugés, chaque être humain peut devenir le lieu d'une adoration. Donne-moi à boire, dit-il. Et il cherche ainsi à toucher au désir de vie par ce qu'il y a de plus indispensable à la vie, l'eau qui désaltère. Mais si on fait attention, au fil du dialogue, l'eau semble changer de qualité. Je me suis demandé si elle n'était pas d'ailleurs le personnage principal du récit. La femme devine que Jésus parle d'une eau qui ne se puise plus avec un seau, qui ne s'emporte plus précieusement dans une cruche. Elle va plus tard dans le récit, je ne vous ai pas donné l'ensemble du texte, laisser tomber sa cruche et aller raconter ce qu'elle vient de vivre. Au départ de la demande, l'eau semblait naturelle, pour la vie naturelle. Puis l'eau devient, dans l'échange, une eau puisée miraculeusement, une eau vive, mais encore pour la vie quotidienne. Et au bout du dialogue et de son approfondissement, l'eau est devenue une source d'une autre qualité de vie, inaltérable, une source pour la vie éternelle. Elle ne se puise plus au puits, elle jaillit en l'humain lui-même. La femme ne sait peut-être pas toujours de quoi parle Jésus, mais dans le dire de Jésus ou dans la voix de Jésus pour le dire, elle semble pressentir quelqu'un. C'est comme si l'eau se mettait à chanter dans les mots de Jésus, comme si cette eau devenait vive dans sa parole. Et elle suggère alors une autre soif. Elle appelle en l'être profond la soif de dire vrai sur sa vie. Du boire, l'eau mène au croire. En effet, quand la femme à son tour accède à la demande, « Donne-la-moi cette eau, dit-elle, que je n'ai plus soif et ne vienne plus puiser ici. » Jésus coupe. D'une parole aussi tranchante qu'une lame, il pénètre jusqu'au tréfonds. Il convoque la Samaritaine dans sa vérité la plus nue. « Va, appelle ton mari et viens ici. » Jésus touche la femme au point douloureux de son être. J'oserais dire, en jouant à peine sur l'image, au point d'une fuite, cette insatiabilité, cette illusion par laquelle elle se trompe elle-même, elle a eu 5 maris et l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. L'eau qu'il offre, il la lui offre comme une purification. Et au point même de la fuite en avant de la femme dans cette vie conjugale, il fait alors jaillir une source. Ici, Jésus n'est qu'au début de son ministère, de son exode parmi les hommes, mais le texte déborde déjà de vie. Et cette rencontre au puits de Sichar fait monter et chanter la mémoire. Dans la tradition juive, les histoires bibliques autour d'un puits sont nombreuses et elles se sont comme aimantées, rassemblées, développées. Ce sont des histoires de conflits pour l'eau qui est rare et précieuse. Ce sont des histoires surtout de rencontres, d'alliances, de mariages. C'est au puits que Rebecca a été désignée comme épouse pour Isaac. C'est au puits que Jacob, en voyant venir Rachel avec les troupeaux de son père, a roulé seule la pierre qui bouchait l'orifice. L'eau qui monte est un présage. Les bergers s'écriaient « Monte, puits, chantez pour lui !» Et les eaux bouillonnaient, montaient, débordaient. Pendant 20 ans, raconte même une interprétation orale, un targoum, une traduction créatrice de la tradition juive. Le puits lui-même, dans la mémoire d'Israël, se met en mouvement, comme une pierre qui roule, un rocher, d'où jaillit l'eau qui accompagne Israël dans son exode. Et l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, verra dans ce rocher d'où jaillit l'eau, ou le vin, le Christ, rocher spirituel qui désaltère son Église dans ses épreuves, comme Dieu a désaltéré son peuple au désert. On comprend que la Samaritaine demande à Jésus s'il est plus grand que notre père Jacob. Mais avec Jésus, le don de vie jaillit surtout dans la parole échangée. « Si tu connaissais le don de Dieu », avait-il commencé par dire à la Samaritaine. Et ce don de Dieu était posé et resté presque comme en surplomb du récit, fondant la possibilité de tout autre don. On peut penser que c'est Jésus lui-même en sa personne et la vérité qu'il apporte au cœur de l'homme, qui est ce don de Dieu. « Si tu connaissais le don de Dieu, dit-il, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» La Samaritaine ira raconter à ses compatriotes ce que Jésus a fait pour elle. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait », annoncera-t-elle à ses concitoyens. Au sens le plus fort, elle témoigne alors que toute sa vie, tout ce que j'ai fait, désormais, une fois la vérité faite, est tenue dans la parole de Jésus. Il me semble que ce récit d'évangile s'écrit lui-même comme l'eau dont il parle. Il est lui-même comme une eau vive qui monte du fond de la mémoire juive, des récits enfouis dans la mémoire. Et le chant est scandé ici par le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Tout le récit est un dialogue. Et sa lecture convoque les lecteurs dans l'instance vive de cette parole échangée, vers la vérité de cette parole qui se cherche. Quand on lit ce dialogue, quand on entend ce dialogue, on chemine alors avec la Samaritaine. D'une certaine façon, on suit le devenir de sa compréhension. On ne sait pas toujours où elle en est. On ne sait pas tout à fait non plus si on comprend exactement de quoi Jésus parle. Elle s'étonne, elle nargue peut-être. « Tu n'as pas de seau et tu veux puiser ?» Elle prend à la lettre « Donne-moi de cette eau et je n'aurai plus à venir puiser. » Ou bien elle interroge, ou elle veut faire diversion. On ne le sait pas trop. Le texte, je crois, nous retire à nos lecteurs le moyen de juger. Il nous implique plutôt. Avec la femme, on monte alors par degrés vers le croire, tantôt dans la clarté, en comprenant, tantôt à travers l'ombre des malentendus. On se sent aussi un peu comme Jésus à l'étranger de soi-même. Et on se laisse, comme la femme, conduire par des pressentiments, vers un assentiment. Sans doute ne peut-on accueillir la révélation de Dieu sans entrer dans une démarche de vérité à soi-même. C'est du moins ce qui est proposé au lecteur de ce texte. « Je sais, dit la femme, que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. » Elle s'en remet au futur. Mais Jésus dit, plus de fuite en avant, « Je le suis, moi qui te parle. » Voilà pour ce troisième geste et parole échangée ou parole interprétative autour de ces gestes. ces gestes extrêmement forts, ces gestes mis en scène à travers des personnages féminins dans des rencontres qui sont des transgressions, des règles, de la langue, des comportements, à table ou au bord d'une source.
Merci.
Je vous remercie de votre attention.